Nous allons continuer notre série sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 18. Aujourd'hui, nous allons regarder les propriétés de la parole écrite de Dieu. Dans cette première partie, on va regarder deux caractéristiques, deux propriétés de la parole écrite de Dieu. Donc, on va regarder aujourd'hui l'autorité et la clarté des Écritures. Alors, le peuple de Dieu aime la parole de Dieu. Le prophète Michée a prédit, « De nombreuses nations viendront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel de Jérusalem. » On a ça dans Michée, chapitre 4, verset 2. C'est une marque des vrais enfants de Dieu, de quelque nation qu'ils viennent, qu'ils désirent adorer le vrai Dieu selon sa volonté et entendre sa parole afin qu'ils puissent lui obéir. Ayant goûté la bonté du Seigneur, ils désirent la parole comme les nouveaux-nés désirent le lait. Les paroles de Dieu sont plus douces que le miel pour eux. Ils comptent l'instruction qui sort de sa bouche plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Pourquoi les enfants de Dieu aiment-ils tant la parole? Ils l'aiment parce que leur cœur régénéré découvre que ce livre ne ressemble à aucun autre. La Bible est pour eux le livre. Puisque la Bible est la parole écrite de Dieu, elle a certaines propriétés qui la distinguent comme sainte et sacrée, supérieure à tout autre document humain. Ces propriétés font de la Bible le moyen spécial par lequel Dieu communique le salut à son peuple élu, à travers les âges. Comme nous l'avons vu à partir de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et l'autre passage dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21, on les avait regardés dans leur contexte, l'inspiration de la Bible implique qu'elle possède 7 propriétés. Mais dans cette leçon, on va en examiner 2 de ces propriétés, soit l'autorité et la clarté, ou des fois d'autres appellent la clarté et la perspicuité de la Bible. Alors on va regarder le premier point, l'autorité de la Bible. La Bible nous apprend que les gens qui ont entendu Christ enseigner déclaraient, par exemple on lit dans Matthieu chapitre 7 verset 28 à 29, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Lorsque nous parlons de l'autorité de la Bible, nous nous référons à sa propriété en tant que parole de Dieu pour obliger ses lecteurs ou auditeurs à une entière soumission. La Bible a autorité en tant que règle de foi, autrement dit, ce que les hommes doivent croire, et aussi le comportement, ce que les hommes doivent faire. Là où la Bible enseigne une doctrine ou rapporte un événement, elle oblige nos consciences à la tenir pour vraie. Lorsqu'elle commande une attitude, une affection ou une action, elle oblige nos consciences à obéir. Ceux qui exercent une autorité légitime sur les autres peuvent réglementer de nombreux aspects de notre vie extérieure. Mais seule la parole de Dieu a l'autorité pour lier nos consciences en ce qui concerne la doctrine, le culte, la moralité et la conduite. Donc, on va regarder aujourd'hui la source de l'autorité de la Bible. La propriété d'autorité de la Bible découle directement de son origine divine. C'est la parole de Dieu. comme témoignage de Dieu, la Bible a une autorité infiniment plus grande que celle qui provient des hommes. On va regarder deux passages, 1 Jean chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. L'autre passage qu'on va regarder, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole de Dieu, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voici ce que déclare la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est notre Confession de foi. Alors, voici ce qu'elle dit. Elle dit, « L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, qui est la vérité même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. » On lit ça dans le chapitre 1 de la Confession de foi au paragraphe 4. Le Seigneur implique non seulement la puissance de récompenser ou de punir, mais plus spécifiquement le droit moral de commander qui doit être accompagné par l'obéissance à ses commandements. Dieu a l'autorité sur absolument tout parce qu'il est le Créateur de tout. Voyons le psaume 95, les versets 3 à 6. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. On peut lire également dans le chapitre 45 du livre d'Ésaïe, au verset 9, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? » Et ton œuvre, il n'a point de main. » En tant que parole du Seigneur, elle nous oblige toujours à répondre avec foi et obéissance. Donc, on a regardé la source de l'autorité de la Bible. Nous allons regarder maintenant l'autorité biblique et son rapport avec l'Église. Contrairement à l'Église catholique, nous ne pouvons faire d'aucun dirigeant ou conseil de dirigeant notre autorité finale, car l'histoire a montré que de tels dirigeants et conseils se sont trompés et que les événements se contredisent. On va regarder encore une fois notre Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est très claire à ce sujet, dans le chapitre 1, dans le paragraphe 10. Alors on lit le paragraphe 10. « Le juge suprême, par lequel tout débat religieux doit être réglé, et par lequel tous les décrets des conciles, toute opinion des pères, toute doctrine humaine, toute opinion particulière doivent être examinées et à la décision duquel nous devons nous en remettre ne peut être rien d'autre que l'Écriture sainte que l'Esprit nous a communiquée. Notre foi se décide par l'Écriture ainsi communiquée. » La Confession de foi cite des passages qui montrent que les apôtres et même le Christ lui-même ont fait appel à la Bible pour régler les controverses religieuses. Nous pouvons lire par exemple dans Matthieu 22, les versets 29 à 32. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Donc, après avoir regardé la source de l'autorité et l'autorité biblique et son rapport avec l'Église, on va regarder maintenant la question de l'authentification de la Bible. Une fois de plus, on va aller regarder la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui exprime très bien l'idée de l'authentification de la Bible. Alors, ça se trouve, ce que je vais lire, ça se trouve dans le chapitre 1 de la Confession de foi, et dans le paragraphe 5. Alors, je lis le paragraphe 5. Nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l'Église de Dieu à accorder aux Écritures saintes une haute estime toute empreinte de respect. De plus, le caractère divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes ses parties, le but de l'ensemble, qui est de donner toute la gloire à Dieu. Le dévoilement que l'opère pleinement, qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé, et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité, toute divine, proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole. Le grand théologien et leader puritain et pasteur, qui s'appelait William Perkins, qui a vécu entre 1558 et 1602, a dit que la seule preuve qui rend une personne certaine que les Écritures sont la parole de Dieu est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui parle dans les Écritures. Il explique « Les élus, ayant l'Esprit de Dieu, discernent d'abord la voix du Christ parlant dans les Écritures. De plus, cette voix qu'ils discernent, ils l'approuvent, et ce qu'ils approuvent, ils le croient. » Alors, ça vient de son ouvrage « The Art of Prophesying », pages 17 et 18. L'autre point qu'on va regarder, c'est l'autorité de la Bible versus l'autonomie personnelle. L'autorité divine de la Bible est une offense à l'homme moderne qui se glorifie dans le scepticisme et l'autonomie autoproclamée, ne répondant à personne ni ne voulant rendre de compte à personne. Le pasteur et théologien américain Carl Henry, qui a vécu de 1913 à 2003, a écrit « Le laïc radical, vantant la prétendue maturité de l'homme moderne, est sceptique quant à toute autorité transcendante. » Alors, il a déclaré cela dans le livre « God, Revelation and Authority », M. Carl Henry. Ce scepticisme peut être justifié par les horribles abus d'autorité qui ont eu lieu dans certaines églises et certaines familles religieuses. Il est juste de remettre en question l'autorité lorsqu'elle est revendiquée sans mandat légitime ou exercée avec une injustice flagrante. Cependant, rejeter toute autorité, c'est rejeter Dieu et se jeter entre les mains cruelles d'idoles tyranniques, comme l'a tristement démontré l'histoire du XXe siècle. Trop souvent, ceux qui entreprennent de renverser l'autorité oppressive deviennent eux-mêmes des oppresseurs, car il leur manque toute autorité transcendante pour freiner leur impulsion à se déifier. La voie pour vaincre le mal et l'autorité abusive est la soumission à la véritable autorité, fondée sur l'autorité de Dieu. Notre Créateur a le droit d'exiger notre soumission à sa parole. Et sa parole est, comme nous pouvons le voir dans le psaume 19, verset 9, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Ayant rejeté l'autorité de la parole de Dieu, les modernistes empruntent la voie sans issue du subjectivisme et du rationalisme centré sur l'homme. Autre point qu'on va regarder, c'est les implications pratiques de l'autorité biblique. Les implications pratiques de l'autorité de la Bible deviennent évidentes lorsque nous considérons que notre réponse à la parole de Dieu est notre réponse à Dieu lui-même lorsqu'il nous parle. Dans cette lumière, nous voyons la logique convaincante qu'on peut lire, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 66, versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur est mon trône, le ciel est mon trône, excusez-moi, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » L'humilité et l'esprit abattu face au péché sont des réponses appropriées à la parole, car lorsque nous entendons la parole, nous sommes en présence du Créateur infini et saint du ciel et de la terre. Nous ne portons pas de jugement sur la Bible, mais plutôt dans la Bible. Dieu se tient au-dessus de nous pour bénir ou maudire, pour sauver ou pour condamner. La marque ou la caractéristique biblique du vrai peuple de Dieu est qu'il tremble à la parole de Dieu. L'absence de cette marque explique pourquoi tant de gens rejettent doctrinalement ou pratiquement l'autorité de la parole de Dieu. On lit par exemple dans Romains chapitre 3, verset 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La vraie foi est plus qu'un assentiment intellectuel. La vraie foi nous pousse à craindre et à obéir lorsque nous entendons la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Examinez votre cœur pour cette grâce de la crainte inspirée par la parole de Dieu vivant, du Dieu vivant. Si elle est présente, remerciez Dieu et chérissez-la pour qu'elle grandisse. Si elle est absente, implorez le Seigneur de vous accorder la grâce de son salut, car vous êtes perdu. Autrement dit, vous êtes sur le chemin de la perdition éternelle. On a vu la première partie qui était l'autorité de la Bible. Maintenant, nous allons passer à la deuxième caractéristique, la clarté de la Bible. La Bible nous enseigne des réalités qui vont bien au-delà de notre compréhension. Des vérités divines qui ont poussé l'un de ses auteurs humains à crier. Ici, on sait que c'est Paul, dans Romains chapitre 11, verset 33, lorsqu'il dit, on rappelle que cette parole de Paul a été dit après qu'il ait eu exposé la voie du salut dans tout le livre de Romains. Mm. Et il est vraiment, il est en admiration totale devant le Seigneur. Et il dit, en Romains 11, 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Les Saintes Écritures contiennent aussi certaines choses difficiles à comprendre, comme l'écrit l'apôtre Pierre à propos des épîtres de Paul. Il dit, par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 et 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. De plus, la Bible est un livre vaste et compliqué. En réalité, une collection de livres écrits par de nombreux auteurs au cours d'un millénaire et demi. Par conséquent, la parole de Dieu appelle les enseignants doués par l'Esprit, ordonnés comme ministres de la parole, diligents dans leur étude de la parole et fidèles dans sa proclamation. De tels hommes sont les dons du Christ ressuscité pour édifier son corps qui est l'Église. On lit par exemple dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 13, et là ça parle de Christ, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Cependant, la Bible n'est pas la propriété exclusive d'une guilde d'élite d'enseignants, mais le trésor de toute la famille de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tout son peuple, jeunes et vieux, petits et grands, entendre et lire sa parole, et il ordonne à tous les croyants, et en particulier aux parents, de méditer sur ces paroles vivantes et de les enseigner diligemment à leurs enfants, les pétrissant comme du vin dans la pâte de vie. On lit par exemple dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » On lit également dans Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les thèmes fondamentaux de la loi et de l'Évangile, bien que profonds, sont suffisamment simples et clairs pour que les enfants les apprennent, les comprennent et s'en approprient personnellement. La Bible a été comparée à une rivière assez profonde pour qu'un éléphant puisse nager, et assez peu profonde sur ses rives pour qu'un agneau patauge en toute sécurité. La richesse des allusions à l'Ancien Testament, dans le Magnificat de la Jeune Vierge Marie, témoigne que les enfants pieux peuvent grandement bénéficier de l'enseignement biblique. On peut lire cela dans Luc, chapitre 1, les versets 46 à 55. Ils peuvent le faire parce que la parole de Dieu est claire. Alors qu'on va regarder sur le point de la clarté de la Bible, il y a eu controverse au cours de l'histoire sur la clarté des Écritures. Alors, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 parle de cet aspect-là, dans le chapitre 1, dans le paragraphe 7. Alors, voici ce que ça dit. Dans l'Écriture, tout n'est pas évident également, ni également clair pour tous. Cependant, tout ce qu'il faut connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exprimé et dévoilé dans tel ou tel passage de l'Écriture que non seulement l'érudit, mais même l'ignorant peut arriver à une compréhension suffisante par l'usage de moyens ordinaires. On va aller regarder trois passages des Saintes Écritures qui nous parlent un peu de cela. Alors ici, c'est Pierre qui parle, mais il mentionne les épîtres de Paul. Il dit « C'est ce qu'il a fait connaître dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » On a le psaume 19 aussi, versets 7 et 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Et le dernier passage, le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. » Alors on pourrait se demander qu'est-ce que la clarté des Écritures, ou que dans l'histoire on a appelé ça la perspicuité, mais ça veut dire la même chose. Dieu a rendu son message compréhensible à l'humanité. La clarté de l'Écriture est également connue sous le nom de perspicuité. Cela signifie que le message de base de l'Écriture a été clairement révélé afin que chacun puisse le comprendre. La Bible est un livre qui doit être compris par les masses. Elle ne contient pas de message secret ou caché de Dieu. Nous trouvons la clarté de l'Écriture enseignée dans l'Ancien Testament, dans les enseignements de Jésus et dans les lettres du Nouveau Testament. Par conséquent, personne n'a d'excuse. Cependant, il y a une dimension spirituelle à la vérité de Dieu que seuls les croyants comprendront. Cela ne peut se faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. En passant, le mot « perspicuité » vient du latin « perspicuus », qui signifie « transparent, clair, évident ou manifeste ». Les réformateurs développèrent cette doctrine pour corriger les erreurs de l'Église catholique, qui enseignait que la Bible avait quatre sens, le sens littéral, le sens analogique, le sens tropologique ou moral, et le sens allégorique. Ces supposés sens faisaient en sorte que l'interprétation était réservé aux érudits et aux clergés et servait de prétexte à refuser au peuple le droit de lire et d'interpréter la Bible sans l'aide exclusive de l'Église catholique. Les réformateurs voulurent redonner au peuple la Sainte Bible en permettant qu'elle soit traduite dans la langue des peuples et qu'elle soit accessible à tous. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, au verset 23, nous lisons « Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Nous lisons également dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, dans la version David-Martin, « À la loi, et au témoignage qu'il ne parle pas, que s'il ne parle pas selon cette parole, on recommence, à la loi et au témoignage, que s'il ne parle pas selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui. Alors on va regarder aussi les implications pratiques de la clarté de la Bible. Une des applications, c'est celle de notre obligation de la sonder. Une implication pratique de la clarté de l'Écriture est que nous devrions sonder les Écritures avec une grande anticipation. Si nous sommes croyants et prions pour que Dieu nous illumine afin que nous puissions voir les merveilles de sa parole, on peut lire par exemple le fait de la merveille de la parole dans le psaume 119 au verset 18, nous avons toutes les raisons de nous attendre à voir ces merveilles exposées et leurs mystères dévoilés dans les pages des Écritures. L'un des livres des Écritures les plus difficiles à interpréter est l'Apocalypse, mais il s'ouvre sur cette promesse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. La parole de vérité est un don bon et parfait du Père des Lumières, comme on peut le lire dans Jacques, chapitre 1, versets 17 et 18. Cela devrait nous motiver à lire la Bible, à l'enseigner à nos enfants et à entendre la prédication de la parole avec beaucoup d'empressement et d'appétit spirituel. Donc, une des implications, c'est qu'on se doit de la sonder. L'autre implication, c'est qu'elle se doit d'être traduite dans les langues des peuples. Encore une fois, on revient avec une déclaration de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 qui insiste sur ce besoin. On lit, par exemple, dans le chapitre 1, paragraphe 8. Alors, je lis le paragraphe 8. L'Ancien Testament en hébreu, la langue de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec, une langue très en usage parmi les peuples à l'époque de sa rédaction, sont directement inspirés de Dieu, et par ses soins particuliers, sa providence, gardés purs à travers les siècles. Ils sont donc authentiques, et dans tout débat religieux, l'Église doit y faire son dernier appel. Or, ces langues originales ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les Écritures, et qui a reçu l'ordre de les lire et sonder dans la crainte de Dieu. Aussi, les Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée par chaque nation où elles pénètrent, pour qu'elles soient pleinement répandues parmi nous, et que tous puissent rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, et que par la patience et la consolation apportées par les Écritures, il possède l'espérance. Alors bien sûr, on a cette nécessité de traduire dans les... la langue anglaise a une multitude, a vraiment été traduite, et la langue française également, et beaucoup d'autres langues, mais il reste encore un travail à faire dans la traduction, dans la langue de toutes les nations et peuples de la terre. Nous lisons, par exemple, dans Colossiens, chapitre 3, qui nous dit que la parole de Christ, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et la troisième implication, donc la première c'est à sonder, la deuxième c'est à traduire dans les langues des peuples, et la troisième c'est vraiment ce qu'on appelle le principe de l'interprétation, qui est connu sous le nom de analogie de l'Écriture ou analogie de la foi. Alors, encore une fois, la Confession de foi baptiste de Londres 1689 nous instruit aussi sur ce sujet-là. Nous pouvons lire, par exemple, dans le paragraphe 9 du chapitre 1, « La règle infaillible pour l'interprétation de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. Par conséquent, quand on se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'Écriture, donc un sens qui est un et non multiple, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement sur ce sujet-là. Autrement dit, la Bible s'interprète elle-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la définition, une définition de l'analogie de la foi ou de l'analogie de les Écritures qui vient nous éclairer. Ça vient du site web Le Bon Combat, qui a écrit un article sur l'analogie de la foi. Les copier parce qu'il était vraiment très bon. Alors, voici ce que ça dit comme définition du principe de l'interprétation de l'analogie des Écritures ou de l'analogie de la foi. Alors, ça dit, ce terme peut paraître un peu obscur, mais il est en réalité très simple à comprendre. Quand nous étudions un passage biblique, qu'il s'agisse d'un verset, d'un chapitre ou même d'un ensemble plus important, nous devons toujours le confronter avec le reste de ce que dit la Bible sur le même sujet, dans son ensemble. Le but étant d'arriver à une compréhension plus claire et plus globale du thème que nous sommes en train d'étudier dans notre passage. Le but est donc d'éclairer un passage avec d'autres passages pour qu'il devienne plus clair. Il y a donc quelques règles à respecter. Ce sont par exemple les textes clairs qui doivent éclairer les textes obscurs, et non l'inverse. Éclairer la doctrine généralement claire des Épîtres avec l'Apocalypse est donc globalement une erreur. Ça ne veut pas dire que l'Apocalypse n'a rien à nous apprendre en lui-même, bien au contraire. Ensuite, il faut respecter le mouvement de la révélation progressive de Dieu. On éclaire donc l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament et non l'inverse, bien que l'Ancien nous aide à mieux comprendre le Nouveau. Donc, deux choses importantes à retenir là-dedans ici, avant que je continue la lecture, c'est que les textes clairs doivent nous aider à interpréter les textes non clairs, et aussi le fait que le Nouveau Testament nous aide à priorité sur l'Ancien pour la compréhension d'un verset ou d'un passage. Je continue. Alors, ça se termine, le dernier paragraphe nous dit « Il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on appelle le principe de la première mention, une chose qui est rapportée dans la Bible en premier, comme par exemple le parler en langue en acte 2, nous aidera à mieux comprendre les autres mentions qui en seront faites par la suite. Pour ce qui est de l'intertextualité, un texte repris d'un autre texte, il faut aller voir dans le passage original ce que l'auteur voulait dire avant de pouvoir comprendre pourquoi notre auteur fait cette citation. » Alors, c'est très intéressant ce passage-là, et c'est quelque chose à relire et à essayer de bien comprendre et surtout à mettre en pratique dans notre interprétation des Écritures. Deux applications d'après tout ce qu'on a vu aujourd'hui. La première, honorons le Seigneur en comprenant bien l'autorité des Saintes Écritures en matière de foi et de pratique. Dieu a parlé et nous devons obéir et nous laisser transformer pour sa plus grande gloire. Familiarisons-nous avec ce concept et agissons en conséquence dans notre vie de tous les jours. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné ce trésor inestimable qu'est la Sainte Bible. Deuxième application, louons Dieu d'avoir permis que la Bible soit claire pour tous et de nous avoir donné les ressources et les outils pour nous aider à la comprendre. Prions le Seigneur de nous éclairer davantage et d'ouvrir notre intelligence lors de chacune de nos lectures ou de l'écoute de sermons. que cette clarté se reflète dans notre comportement quotidien et dans notre relation avec lui. Louez le Seigneur pour sa sainte parole. Chérissons-la plus que jamais. Amen.